Bonsoir et bienvenue dans Samedi Noir, votre rendez-vous avec la fiction, le samedi de 21h à 22h. Ce soir, en direct de la Maison de la Radio, première émission d'un cycle consacré à Amélie Nothomb. Nous ouvrons ce soir avec Barbe Bleue un cycle de trois contes revisités, réinventés, réenchantés peut-être même par l'écrivaine Amélie Nothomb. Ainsi ce soir, Barbe Bleue n'est plus cet horrifique personnage des contes de Perrault, mais une personne beaucoup plus délicate, passionnée par la couture et qui a bien le droit après tout de développer son goût du secret matérialisé par une pièce interdite dans un appartement de colocation. Nous sommes au 21e siècle à Paris, dans le 7e arrondissement. Saturnine, une jeune femme belge à la forte personnalité, partage un appartement avec un riche, mystérieux et envoûtant espagnol. Le Barbe Bleue de Amélie Nothomb est un conte moderne et cruel, lequel des deux protagonistes succombera en premier. Une réalisation de Cédric Ossir en direct du studio 118.
Barbe Bleue, d'Amélie Nothomb. Roman adapté par Julie Guichard. Réalisation, Cédric Ossir.
Quand Saturnine arriva au lieu du rendez-vous, elle s'étonna qu'il y ait tant de monde. Certes, elle s'était doutée qu'elle ne serait pas l'unique candidate. De là à être reçue dans une salle d'attente, il y avait de la marge.
C'est trop beau pour être vrai. Je n'aurai jamais cette colocation.
C'était la première fois qu'elle entrait dans un hôtel de maître du 7e arrondissement de Paris. Et elle n'en revenait pas du faste, de la hauteur sous plafond, de la tranquille splendeur de ce qui constituait à peine une antichambre.
Une chambre de 40 mètres carrés avec salle de bain, accès libre à une grande cuisine équipée. Pour un loyer de 500 euros, il doit y avoir une erreur.
Oui.
Pardon ?
Vous êtes la plus jeune et la plus jolie. Vous aurez l'appartement.
Je ne comprends pas.
N'êtes-vous pas au courant de la réputation du maître des lieux ?
Non.
Nous ne sommes pas les premières à nous présenter. 8 femmes ont déjà obtenu cette colocation. Toutes ont disparu.
Elles n'étaient pas contentes de la chambre, peut-être ?
Vous n'avez pas compris. Elles n'ont plus eu la possibilité de s'exprimer là-dessus. On n'a plus jamais entendu parler d'elles.
Mortes ?
Non. La mort n'est pas une disparition.
Pourquoi venez-vous alors ? Vous voulez disparaître vous aussi ?
C'est la seule manière pour moi de rencontrer le propriétaire. Don El-Emir ne sort jamais de chez lui. Je veux savoir à quoi il ressemble. Tant de femmes sont tombées folles de cet homme.
Saturnine avait horreur des séducteurs. Hélas, elle n'en pouvait plus de rechercher un logement. La simple idée de retourner le soir à Marne-la-Vallée chez son amie Corinne lui levait le cœur.
Bonjour mademoiselle, je suis Don El-Emir Ibalemilcar. J'ai 44 ans.
Je m'appelle Saturnine Puissant, j'ai 25 ans. J'effectue un remplacement à l'école du Louvre.
La chambre est à vous.
Vous avez refusé les candidates précédentes et moi vous m'acceptez comme ça. C'est l'école du Louvre qui vous a convaincu.
Si vous voulez. Je vais vous montrer vos appartements. Voici la cuisine. Vous disposez d'un frigo entier à votre seule attention. Je n'aime pas savoir ce que mangent les autres.
Vous cuisinez ?
Bien sûr. La cuisine est un art et un pouvoir. Il est hors de question que je me soumette à celui de qui que ce soit. Si vous voulez partager l'un de mes repas, ça sera avec plaisir. L'inverse n'est pas vrai. Je vous propose de commencer ce soir. Ceci est l'entrée de la chambre noire, où je développe mes photos. Elle n'est pas fermée à clé, question de confiance. Il va de soi que cette pièce est interdite. Si vous y pénétriez, je le saurai, et il vous en cuirait. Sinon, vous pouvez aller partout. Avez-vous des questions ?
Dois-je signer un contrat ?
Vous verrez cela avec mon secrétaire.
Quand puis-je m'installer ?
Dès maintenant.
C'est que je dois aller chercher mes affaires.
Voulez-vous que mon chauffeur vous y escorte ?
Votre chauffeur ? Oui, merci.
Tu n'étais pas bien ici avec moi ?
Mais si, et je te remercierai jamais assez. Mais je ne pouvais pas abuser de ton hospitalité jusqu'à la fin des temps.
J'ai peur pour toi. C'est louche ton plan.
Corinne, tu me connais. Je suis une dure à cuire. Viens me voir quand tu veux. J'ai lu le contrat, j'ai le droit de recevoir.
Et si tu entres dans cette chambre noire par distraction ?
C'est pas mon genre. Je m'en fiche, moi, de ces photos.
Bien, nous dînerons dans la cuisine. Vous aimez les œufs ?
Oui.
Je vous en prie. Servez-vous.
Quelle est votre occupation ?
Aucune.
À part la photo, bien sûr.
Bien sûr, je m'en fais pas souvent. J'attends d'être inspiré, ce qui n'est pas fréquent.
À quoi passez-vous votre temps, alors ?
Je suis espagnol.
Ma question n'était pas de cet ordre.
C'est mon activité.
En quoi consiste-t-elle ?
Aucune dignité n'arrive à la cheville de la dignité espagnole. Je suis digne à plein temps.
Et ce soir, par exemple, comment manifesterez-vous votre dignité ?
Je relirai le greffe de l'Inquisition. C'est admirable. Comment a-t-on pu médire de cette instance ?
Peut-être parce qu'elle pratiquait le meurtre et la torture.
Je vois que vous êtes un esprit fort. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes française.
Non, je suis belge.
Vous êtes donc en partie espagnol, grâce à Charles Quint.
C'est un peu loin, tout ça.
Non, nous n'avons jamais quitté le XVIe siècle.
Lire le greffe du tribunal de l'Inquisition doit avoir ses limites. Que lirez-vous ensuite ?
Je relirai Gracian et Lulle.
La section espagnole du Louvre est tout à fait pour vous. Vous devez y avoir vos entrées.
Je n'y suis jamais allé.
Vous plaisantez ?
Non, je ne sors jamais. Je n'ai plus quitté ce logis depuis 20 ans. Le monde extérieur me choque par sa vulgarité et son ennui.
Ça vous suffit, vos vieux livres pour exister.
Il n'y a pas que. Il y a Dieu, le Christ, le Saint-Esprit.
Votre existence me tente de moins en moins.
Et puis il y a les femmes.
Où les cachez-vous ? J'en ai vu aucune.
Avez-vous le sentiment d'être cachée ?
Je ne suis pas une femme de votre vie.
Si, depuis ce matin. 15 femmes se sont présentées pour la chambre. Quand je vous ai vue, j'ai su aussitôt qu'avec vous, le destin pourrait s'accomplir.
Rien ne s'accomplira sans mon consentement.
En effet.
Donc, rien ne s'accomplira.
Je vous comprends, je vous déplais, c'est naturel.
Cette colocation, c'est uniquement pour trouver des femmes ?
Bien sûr. Pourquoi d'autres ?
J'avais imaginé que c'était pour l'argent.
500 euros par mois, vous plaisantez.
Pour moi, c'est une somme.
Pauvre enfant.
Je ne comprends pas. Un homme comme vous ne devrait avoir aucun problème à rencontrer des femmes.
Précisément. Je suis l'un des célibataires les plus convoités du monde. C'est aussi pour cela que je ne sors plus de chez moi. Dans chaque réception mondaine, une embuscade de femmes m'attend.
Votre modestie me touche.
Je suis plus modeste que vous ne le pensez. Je sais que ces femmes n'en ont ni après mon physique ni après ma personnalité.
Oui, le drame des hommes riches.
Vous n'y êtes pas. Pour la richesse, il y a plus intéressant que moi. Mon drame, c'est que je suis l'homme le plus noble du monde.
Vous avez donc un problème avec les femmes parce que vous êtes trop noble ?
Oui. Toute union serait une mésalliance. C'est pourquoi je préfère la colocation. Les colocatrices n'espèrent pas qu'on les épouse. Elles habitent déjà avec vous.
Mais parmi les 15 candidates, il y en avait au moins une qui connaissait votre pédigré.
Toutes, ça va. J'ai choisi l'ignorante.
Ignorante, je ne le suis plus.
En effet, je pousse l'honnêteté jusqu'à vous avertir.
Et si je partais ?
Libre à vous.
Je ne partirai pas. Je n'ai pas peur de vous.
Vous avez raison, je suis l'être le plus fiable que je connaisse.
C'est une drôle de réponse. Les gens qui se disent fiables sont aussi dangereux que les autres.
Oui, mais les règles sont claires. Le danger est donc évitable. Voulez-vous un dessert ?
Proposé de cette manière, on croirait une menace.
C'en est une. Il s'agit d'une crème à base de jaune d'œuf.
Vous me servez une omelette et puis des œufs en guise de dessert ?
J'ai une passion théologique pour les œufs. Je mets la crème dans des tasses en or massif. Vous allez comprendre.
Ce jaune opaque dans cet or baroque, c'est d'une beauté.
Vous êtes sensible à cela?
Comment ne pas l'être? C'est la couleur même de la lumière, modulée du plus mat au plus brillant.
Mademoiselle, je vous aime.
Déjà? Et pour si peu?
Je vous prie de ne pas gâcher par des paroles inconsidérées l'excellente impression que vous venez de produire. L'or est la substance de Dieu. Aucune nation n'a autant le sens de l'or que l'Espagne. Comprendre l'or, c'est comprendre l'Espagne, et donc me comprendre. Je vous aime, c'est ainsi.
Soit. Je ne vous aime pas.
Cela viendra.
C'est délicieux.
Je vous aime encore plus.
L'extraordinaire confort du lit traumatisa Saturnine. Comme tous ceux qui ont couché sur des lits de camp pendant des mois, elle sut aussitôt qu'elle ne pourrait plus se passer de luxe. Au milieu de la nuit, elle se leva pour un besoin. Ses pieds foulèrent le bois tiède du parquet, puis le marbre chauffé de la salle de bain. Ce dernier détail la sidéra. Le lendemain matin, quand elle partit à l'école du Louvre, elle était dans une forme du tonnerre. Le soir, de retour dans ses appartements, elle trouva un mot de Don Elimirio, la priant de partager son dîner.
Bonsoir, mademoiselle. J'ai préparé des paupiettes. Vous n'aimez pas?
Si, mais c'est tellement français. Je ne m'attendais pas à ce qu'un Espagnol choisisse ce classique des familles françaises. C'est délicieux.
Je vous aime.
Laissez-moi dîner en paix, s'il vous plaît.
Voulez-vous m'épouser?
Je pensais que vous n'épousiez pas.
Je ferai une exception pour vous. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé.
Vous avez dû le dire à toutes celles qui m'ont précédée.
Je l'ai dit chaque fois que c'était vrai. Mais vous êtes la première que je demande au mariage.
Vous saviez que je refuserais. Le risque était faible.
Refusez-vous à cause de ma réputation?
Les disparitions de femmes? Non. Je refuse parce que je n'ai aucune envie de me marier. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces femmes?
C'est une longue histoire.
Arrêtez. Je n'aurais pas dû vous poser cette question. Cela m'est égal, ce qui s'est passé.
Pourquoi dites-vous cela?
Vous avez mal choisi votre colocataire. Les candidates qui attendaient avec moi n'étaient venues que par curiosité pour ces femmes disparues. Moi, je cherchais seulement un logement.
Je vous ai donc très bien choisi.
À quel jeu pervers jouez-vous? Vous installez chez vous des filles dans le besoin, vous les séduisez, vous les poussez à la faute, et puis vous les sanctionnez.
Comment osez-vous?
Si vous ne leur aviez pas parlé de cette pièce interdite avec tant d'insistance, aucune de vos colocataires n'aurait jamais eu l'idée d'y aller. J'imagine votre plaisir sadique à les punir ensuite.
C'est faux.
Quel piège grossier. Je ne sais pas qui je méprise le plus. Les malheureuses qui y sont tombées ou le misérable qui l'a tendu.
C'est un test.
Vous vous croyez en position de faire passer des tests? Pour qui vous prenez-vous?
Je suis Don Elimirio Nibal Emilcar, grand d'Espagne.
Oh, ça va, ça n'impressionne que vous. Je ne suis pas dupe de vos bêtises. Il y a un dessert?
Il y a cette crème aux œufs que je vous ai servie hier.
Ça suffit. J'aime la variété.
Que désirez-vous?
Du Saint-Honoré.
Lorsqu'elle entra dans la cuisine le lendemain soir, Don Elimirio sortait du frigo un gigantesque Saint-Honoré.
C'est magnifique!
C'est mon œuvre et le plat principal.
Avez-vous prévu du champagne?
Pardon?
Un tel Saint-Honoré exige d'être accompagné d'un grand champagne.
Je suis confus. Il n'y en a pas.
J'en trouverai.
La jeune femme partit en courant. Elle entra dans une brasserie chic et acheta au prix fort une bouteille de Laurent Perrier. Elle revint à la hâte avec son butin.
Du Laurent Perrier, il est glacé.
Je ne savais pas que vous aimiez le champagne.
Pas vous ?
Je ne sais pas.
À quoi bon être riche si ce n'est pas pour boire d'excellent champagne ? Vous, qui êtes obsédé par l'or, ne savez-vous pas que le champagne en est la version fluide ?
À quoi buvons-nous ?
À l'or, bien sûr.
À l'or.
À présent, nous pouvons dignement déguster votre Saint-Honoré.
Délectable.
Allons bon, vous pleurez ?
Pour la première fois, j'ai l'impression de vous plaire. Je suis un émotif.
N'exagérons rien. J'apprécie votre gâteau, voilà tout. Séchez vos larmes, je vous prie.
Non, non. J'aime pleurer devant une belle jeune femme qui j'offre de la volupté.
Éprouvez-vous autant d'émotions à plaire aux femmes qu'à les châtier ?
D'où tirez-vous que je les châtie ?
De vos propres paroles. Si vous pénétriez dans la chambre noire, il vous en cuirait.
Cette phrase ne spécifie pas que je châtie quiconque.
J'ai l'impression que vous jouez sur les mots.
Si vous me croyez malfaisant, pourquoi restez-vous ?
Parce que je bénéficie ici d'un confort extraordinaire. Parce que je ne suis pas du genre à m'intéresser à votre chambre noire. Parce que dès demain, vous commanderez de grands champagnes.
En somme, vous m'appréciez ?
Je n'ai pas dit cela. Mais je n'ai pas peur de vous.
Vous avez raison. Je ne suis pas dangereux.
Qu'en pensent les 8 femmes qui m'ont précédé ?
Posez-leur la question.
Vous êtes macabre.
Laissez-moi vous raconter.
Nos actes sont injustifiables.
Si c'est votre opinion, dénoncez-moi à la police.
Je ne mange pas de ce pain-là. Dénoncez-vous tout seul.
Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu.
C'est commode.
Maintenant que vous connaissez mes talents culinaires, voulez-vous m'épouser ?
On n'épouse pas pour un gâteau.
Vous me décevez profondément.
Tant mieux.
Je voudrais que vous restiez ici éternellement.
Allons, on n'a pas le droit de sombrer dans la mélancolie quand on boit cet élixir. Dès demain, vous passerez commande chez Laurent Perrier, Redereur, Dom Pérignon et toute la bande. Ne lésinez pas, vous avez les moyens.
C'est aussi bien que moi.
C'est terrifiant. Comment peux-tu rester avec ce psychopathe ?
Ce type se nourrit de l'angoisse des autres, et des femmes en particulier. Je veux lui montrer qu'il ne m'impressionne pas.
Pourquoi tu n'appelles pas la police ?
C'est drôle, il me l'a dit aussi. Je crois qu'il y a également chez lui le fantasme d'être livré à la justice.
N'es-tu pas tenté d'entrer ?
J'en ai la curiosité, mais il m'est facile d'y résister. Tu peux être sûr qu'il y a des caméras de surveillance. Je n'ai pas envie de rejoindre ces malheureuses.
Il me semble, moi, que j'irai la nuit dans un accès de somnambulisme. Saturnine, quitte cette demeure, je t'en prie.
Suis-moi plutôt. Couche-toi sur le lit.
Oh !
Écoute le silence.
Oh, je comprends tes arguments. Ce mec veut t'épouser ? Accepte. Et liquide-le ensuite.
Tu veux que je limite, en somme ?
Ce type a assassiné 8 femmes.
On ne se fait pas justice à soi-même.
Tu es embêtante.
Je n'ai pas envie d'aller en prison.
Et si tu commettais le crime parfait ?
Ça n'existe pas.
Alors quoi ? Tu vas habiter avec ce cinglé sans rien faire ?
Aussi longtemps que je suis là, il ne risque pas de zigouiller une nouvelle femme.
Tu te sacrifies.
Je n'appelle pas ça me sacrifier. C'est l'heure du dîner. Accompagne-moi.
Je ne suis pas invitée.
Je t'invite.
J'ai peur.
Oh, chuchote.
Donnelly Myriot, je vous présente Corinne, mon amie d'enfance.
Bonsoir, mademoiselle. Acceptez-vous une flûte de champagne ?
C'est que je dois retourner chez moi, je préfère ne pas rentrer trop tard à cause du RER.
Mon chauffeur vous conduira.
Tu vois ? Du Laurent Ferrari ?
Cuvée grand siècle ! Vous avez bien fait les choses.
À quoi buvons-nous ?
Comme hier. Alors ?
Alors ?
Alors ? Des scorpions.
Tu n'as jamais mangé de homard?
Si, bien sûr.
Depuis quand vous connaissez-vous?
Depuis l'Athénée.
Pardonnez-moi?
L'Athénée, c'est l'école secondaire en Belgique.
Quel mot admirable. Vous avez donc été placées toutes les deux sous l'égide d'Athéna.
On le fait. Athéna, déesse de l'intelligence. Méfiez-vous, Donnelly Myriot.
Que faites-vous ?
Je travaille chez Euro Disney.
De quoi s'agit-il ?
C'est un parc d'attractions. J'organise les files au palais de l'épouvante.
Aimez-vous votre travail ?
Non. À 12 ans, Saturnine était déjà la première, moi la dernière de la classe.
J'étais le dernier de la classe, moi aussi.
Oui, mais vous pouviez, ce n'était pas grave. Pardon, j'ai dit quelque chose d'impoli ?
Non, tu as dû juste lire la vérité.
Je vais vous laisser terminer la soirée tranquillement entre vous.
Comment tu lui parles ?
C'est ce qu'il mérite, non ?
Oui. Tu sais, il est plutôt sympa.
Tu trouves ?
Tu ne vas pas tomber amoureuse de lui.
Tu es malade ?
Beaucoup aimé votre amie. Elle revient quand elle veut.
J'y compte bien.
Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas ?
On ne peut rien vous cacher.
Que pensez-vous de l'indiscrétion ?
Je vous vois venir.
Répondez.
J'ai horreur de l'indiscrétion, c'est une bassesse.
Vous voyez ?
Et pourtant, il y a pire que l'indiscrétion. Il y a ceux qui se croient autorisés à châtier les indiscrets.
À ma place, quelle aurait été votre attitude ?
J'aurais fermé à double tour la porte que je ne voulais pas voir franchie.
Vous auriez renoncé à la confiance d'entrée de jeu.
J'aurais accepté la nature humaine. Nous ne mangeons pas ce soir ?
Si, il reste des scorpions pour parler comme votre ami. Ils ne tiendront pas un jour de plus.
Va pour les scorpions.
Ce que j'aime aussi chez vous, c'est votre ton. Vous êtes une dominante. Vous ordonnez de commander un champagne, vous dites « va pour les scorpions ». J'ai tant de volupté à vous obéir.
Je ne suis comme ça qu'avec vous.
Quelle élection ?
Vous suscitez tout naturellement cette attitude en moi.
Ne serait-ce pas les prémices de l'amour ?
Sûrement pas. Un Dom Pérignon 1976. C'est du velours, ce champagne. Du velours doré. Incroyable.
Le lendemain, en rentrant de l'école du Louvre, Saturnine trouva sur son lit un carton. À l'intérieur, une longue jupe en velours doré et un mot.
En souvenir du champagne d'hier soir. J'espère qu'elle est à vos mesures.
Signé Donnelly Myriot Nibal Himilcar. Elle se déshabilla, enfila un corsage noir, puis revêtit la jupe en retenant son souffle. Elle épousait si parfaitement sa taille qu'elle eut l'impression d'une étreinte amoureuse. Elle passa un temps interminable à contempler son reflet et surtout à caresser ce velours. Elle en frémissait de plaisir. L'or de la jupe chatoyait autour d'elle.
Vous êtes parfaite.
Où avez-vous trouvé cette superbe jupe ?
Je l'ai confectionnée de mes mains.
Qu'est-ce que vous dites ?
La couture est l'une de mes passions. Nous pourrions la baptiser la jupe champagne.
Permettez, la jupe Dom Pérignon.
Après 5 heures de couture, je n'avais plus la force de cuisiner. Alors mon homme de ménage nous a rapporté de bonnes choses de chez Petrossian. Caviar, blinis, crème aigre et vodka. M'en voulez-vous si nous nous passons de champagne ce soir ?
Vous plaisantez ? J'ai toujours rêvé d'un dîner caviar-vodka.
Et puis votre jupe joue le rôle du champagne.
Avez-vous confectionné des vêtements pour chacune de vos femmes ?
Bien sûr. Chaque femme appelle un vêtement particulier. Pour Emeline, ce fut une robe couleur de jour. Ce détail du comte Podane l'obsédait. Je dispose ici du catalogue universel des coloris, taxinomie établie en 1867 par la métaphysicienne Amélie Cassius Belli. Pour Proserpine, ce fut un chapeau claque en dentelle de Calais. Séverine avait la délicatesse d'un sèvre. Alors j'ai créé pour elle la cape catalpa, dont l'étoffe avait le bleu subtil et le tombé des fleurs de cet arbre au printemps. Incarnadine était une fille de feu. Cette créature nervalienne méritait une veste flamme. Trébentine avait écrit une thèse sur l'EVA. J'ai fondu un pneu pour en récupérer la substance ductile et réalisé une ceinture corselet qui lui conférait un port admirable. Mélusine avait les yeux et la silhouette d'un serpent. Je la complétais d'un fourreau sans manche à col roulé qui descendait jusqu'aux chevilles. Albumine, pour des motifs que je ne crois pas devoir expliquer, fut la raison suffisante à l'existence d'un chemisier coquille d'œuf au col méringue, en polystyrène espancé, une véritable fraise. Quant à Digitaline, une beauté vénéneuse. J'ai inventé pour elle le gant mesureur. De longs gants de taffetas pourpre qui remontaient au-delà du coude. Pourquoi riez-vous ?
Le pronostic est imparable. Après moi, votre colocataire s'appellera Margarine et vous dessinerez pour elle un manchon de pure graisse.
On n'avait pas le sens du sacré.
Pardonnez-moi. C'est l'excès de vodka. Alors, vous vous souvenez de toutes vos femmes ?
Ce ne sont pas mes femmes. Il s'agit des femmes que j'ai aimées.
Et qui furent toutes vos colocataires ?
Oui. La colocataire est la femme idéale. Enfin, presque.
Quand avez-vous commencé à recruter des colocataires, pour les nommer ainsi ?
Il y a 18 ans. J'ai cessé de sortir il y a 20 ans. Le manque de femmes n'a pas tardé à me tarauder, mais il me fallait un dispositif. La solution m'est apparue en lisant le journal, ce qui ne m'arrive pas souvent. Il y avait une rubrique, colocation, dans les petites annonces. Il ne me restait plus qu'à publier la mienne. Je ne m'attendais pas à un tel succès.
Que s'est-il passé il y a 20 ans ?
La mort de mes parents. Un tragique accident. Mon père, dont Deodato Nibali Milcar, adorait cueillir des champignons. Dans la forêt de Fontainebleau, il avait ramassé un plein panier de l'épiote couronnée qu'il avait cuisiné lui-même.
Classique. C'était un champignon similaire mais mortel, et vous étiez le seul à n'y avoir pas touché.
Au contraire, je n'avais mangé plus que mes parents. Les indulgences m'ont sauvé.
Je ne comprends pas.
Au milieu de la nuit, ma mère s'est plainte de douleur d'estomac. Les champignons avaient été cuits dans du beurre. Mon père, qui ne se sentait guère mieux, est alors allé chercher du bicarbonate de soude. Sauf qu'il s'est trompé. Au lieu du bicarbonate, il a pris les nitrates dont il se servait comme engrais pour ses rosiers. Il a administré une bonne dose de nitrate à son épouse, puis il a avalé sa part. Quelques minutes plus tard, une déflagration réveilla la maisonnée. Mes parents avaient explosé.
Pour de vrai ?
Oui, un spectacle poignant. Ces morceaux de grande Espagne dans le lustre et le ciel de lit.
Vous devriez inventer des mensonges moins énormes. C'est vous qui avez assassiné vos parents.
Vous êtes folle ?
Votre histoire ne tient pas debout. Si vous dormiez, vous n'avez aucune preuve que votre père ait voulu prendre ce bicarbonate et qu'il l'ait confondu avec les nitrates.
En effet, mais c'est évident.
Vous trouvez ?
Les nitrates étaient placés juste à côté du bicarbonate, dans un bocal identique.
Drôle de rangement.
Non, les rosiers étaient sur la terrasse attenante à la salle de bain.
La police s'est-elle penchée sur cette affaire ?
Oui, elle a conclu à une indigestion.
À la mort de mes parents, j'ai su que je ne vivrais pas comme eux. Je me suis installé dans cette existence autarcique.
C'est là que vous avez été rattrapé par votre obsession des femmes.
Obsession, le terme est exagéré.
Et vous avez eu l'idée funeste de la chambre noire.
Oui, l'idée de la chambre noire m'est venue à cette période. Mais c'est logique, un célibataire n'en a pas besoin. C'est quand on s'apprête à partager sa vie avec son amour que la nécessité apparaît. Je crois savoir que vous n'avez jamais aimé. À plus forte raison, vous n'avez pas l'expérience de la cohabitation amoureuse.
Quand la chaumière comporte 30 pièces comme ici, ce doit être un peu plus facile, non?
L'ambiguïté n'en est que plus grande. Vous verrez quand cela vous arrivera. On croit que l'amour est fusionnel, sous le même toit, il le devient beaucoup moins. Ne pensez-vous pas que tout être humain a droit à sa chambre noire?
Ce qui me choque, c'est d'en faire une menace.
Tout droit implique une sanction en cas d'infraction. C'est ainsi?
Dans votre système, la sanction est bien pire que le crime.
Ce n'est pas de mon fait.
Si vous n'êtes pas responsable, qui l'est?
Celle qui transgresse l'interdit.
Réponse odieuse, inhumaine.
Réponse aristocratique.
Le coup de foudre à retardement est le plus gigantesque défi à la raison. Saturnine rejoignit ses appartements et enleva sa jupe. C'est alors qu'elle remarqua la doublure du vêtement. Une transe d'une subtilité déchirante s'empara d'elle. Elle retourna la jupe de manière à faire rendre gorge à ce jaune. L'habit écorché montra ses tripes sublimes. La douceur de ce tissu exaspéra les mains, puis les joues de l'éberluée. À observer le travail du couturier, le point témoignait d'un équilibre idéal entre maîtrise et émotion. Désespérée, elle rangea le cadeau dans la penderie et décida de ne plus y penser. Elle se coucha, éteignit et ne pensa qu'à cela.
Quel raffinement, quelle sensibilité, quelle attention,
s'attendrit-elle. La seconde suivante, elle se chapitrait.
Jamais je ne l'ai méprisée autant que ce soir. Comme s'il y avait quoi que ce soit d'aristocratique à zigouiller ces pauvres femmes.
Elle souleva les paupières et se parla à haute voix.
C'est vrai que je n'ai pas peur de lui. Et si j'avais raison?
Soudain, elle se redressa, les yeux écarquillés.
Il ne les a pas tués. Les colocataires ont disparu. Ça les regarde. Sans doute ne sait-il pas où elles sont. Elles sont allées dans la chambre noire. Elles l'ont déçu, mais il ne les a pas punies. C'est son mépris qui les a amenées à s'en aller.
La nuit entière, Saturnine pensa en partie double afin de se donner l'illusion de peser le pour et le contre, de maîtriser la situation. Quand on tombe amoureux, on négocie après coup avec soi-même, histoire de voir si on s'autorise cette absurdité. Le lendemain matin, Saturnine n'ignorait plus rien de la gravité de son mal.
« Je ne porterai plus jamais cette jupe »,
se jura-t-elle dans le métro.
Vous ne portez pas votre jupe aujourd'hui?
Pas tous les soirs quand même.
Choisissez le champagne. Vous êtes chez vous.
Détinger, comte de champagne. Je débouche?
Je vous en prie. Ah. Alors. J'ai préparé de la zarzuela.
Qu'est-ce que c'est?
Pour simplifier, c'est de la paella sans le riz.
Saturnine, qui venait de tomber amoureuse, n'avait guère faim, mais décida de cacher ce symptôme.
Depuis cette nuit, j'ai décidé de vous croire.
Merci. Que s'est-il passé cette nuit?
J'ai vu la doublure de la jupe que vous m'avez confectionnée.
Vous n'imaginez pas le travail que cela représente.
La couture?
Non. La couleur, le jaune, est la couleur la plus subtile. Sans doute parce que c'est celle qui se rapproche le plus de l'or. Amélie Cassius Belli distingue 86 jaunes, tous nommés. Pour vous, j'ai inventé le 87e jaune, celui de votre doublure.
J'essaie de réfléchir avec votre cerveau. Ce n'est pas facile. Si j'étais photographe, et si j'avais aimé passionnément 8 femmes, je les aurais photographiées. Or, je n'ai pas vu l'ombre d'une photo de femme dans ce logis. Ni d'ailleurs aucune photo.
Elles sont dans la chambre noire.
Une chambre noire, c'est le lieu où l'on développe les photos.
C'est aussi là que je les expose.
J'aimerais voir des photos prises par vous.
Je viens de vous dire que c'était impossible.
N'avez-vous jamais photographié autre chose?
Quelle idée, non, bien sûr.
Pour vous exercer?
Je suis fier d'avoir pris exactement 8 photos dans ma vie.
Une photo par femme, pas plus?
Surtout pas. La vraie preuve d'amour ne consiste pas à multiplier les images, mais à en créer une seule, parfaite.
Mon tour viendra, n'est-ce pas?
Que voulez-vous dire?
Vous me répétez à tout bout de champ que vous m'aimez. Donc vous allez me photographier. Votre méthode de travail, je finirai forcément par la connaître. Si l'interdit de la chambre noire concerne ces 8 clichés, ma question est celle-ci. La punition consiste-t-elle à voir les photos?
Voir les photos d'autrui est toujours une punition.
Cessez de vous réfugier dans des généralités. Je veux savoir si la menace est extérieure à la photo ou si elle est la photo en elle-même.
Vous parlez un langage incompréhensible. Vous voulez devenir critique d'art?
Qu'avez-vous comme appareil photographique?
Un Hasselblad.
Pas facile comme appareil.
En effet, mais en 8 séances, j'ai progressé.
Vous n'avez fait que 8 séances dans votre existence.
Je n'ai appuyé sur le déclencheur que 8 fois.
8 femmes, ce n'est pas si peu.
Pour l'amour, pour la photographie?
Laquelle de ces 2 disciplines vous importe-t-elle davantage?
Je les différencie à peine. Le but de l'amour me semble d'aboutir à une photo, une seule, absolue, de la femme aimée. Et le but de la photographie est de révéler l'amour que l'on éprouve en une seule image.
Vous m'aimez? Vous me photographierez? Au moins, je saurai comment vous procéder. Et pourquoi utiliser un Hasselblad?
L'immortalité de l'âme et la résurrection des corps.
Saturnine se réveilla au milieu de la nuit. Comment avait-elle pu laisser passer de telles paroles sans réagir? Maintenant, son esprit se mettait à bouillonner. Elle ne pourrait attendre l'heure du dîner pour questionner Don Elemirio. Ce n'était pas un projet sans danger, mais si elle ne le tentait pas, elle était sûre de devenir folle avant le matin. Le risque en valait la chandelle. Elle revêtit un kimono par-dessus sa nuisette, déambula dans les couloirs obscurs et eut la sagesse de passer dans la cuisine prendre un grand couteau à viande. Son cœur battit très fort quand elle entra dans les appartements de l'Espagnol. Il dormait sur le dos, les mains jointes sur la poitrine. Pour la première fois, Saturnine le trouva beau. Mais elle n'était pas venue pour s'attendrir et l'éveilla sans douceur.
Hier soir, à table, vous avez parlé de résurrection des corps. Cela signifie-t-il qu'au paradis, on revit dans le corps de sa jeunesse?
Vous m'avez réveillé au milieu de la nuit pour parler de dogmes chrétiens.
Répondez.
Oui, on peut dire cela de cette manière.
Or, pour ressusciter, il faut mourir.
Bien sûr.
Vous reconnaissez que ces 8 femmes sont mortes?
L'ai-je caché?
Il y avait une ambiguïté.
Vous semblez très affecté. Qu'espériez-vous?
J'ai voulu que vous ne soyez pas un assassin. Je suis une idiote.
Au moins, aviez-vous un noble motif pour vous illusionner de la sorte?
Vous appelez ça un noble motif?
Aimer quelqu'un, c'est toujours noble.
Arrêtez avec vos âneries!
On peut aimer le mal, voilà tout.
Je vous ordonne de vous taire, ou je me sers de ce couteau.
C'est ma faute si votre comportement m'excite à ce point.
Vous l'aurez voulu.
J'ai le sang carmin et argenté. Le 2e alliage de couleurs dans l'ordre de mes préférences.
Vous mentez. Vous ne les avez pas tués, vous en êtes incapable.
Tout le monde est capable de tuer.
Vous n'avez jamais vu de sang sur un couteau, c'est clair.
Je ne pouvais pas les abîmer. Il fallait qu'elle soit intacte pour la photo.
Vous les avez photographiées mortes?
Photographier une vivante, c'est trop difficile. Cela bouge sans cesse.
C'est pour ça que la lenteur du Hasselblad ne vous posait aucun problème.
Comme quoi, il existe une solution à toutes les difficultés techniques.
Comment les avez-vous tués?
Il y a un mécanisme dans la chambre noire qu'il faut bloquer avant d'y entrer. Si on ne le bloque pas, la porte se referme. Et un compresseur se met en marche, qui diminue la température ambiante jusqu'à moins 5 degrés.
Elles sont mortes de froid. Vous êtes d'une cruauté abominable.
Le meurtre n'est pas un acte gentil. Je suis désolé. L'hypothermie n'abîme pas les corps.
Vous rendez-vous compte du supplice que vous avez infligé à celle dont vous étiez soi-disant amoureux? Qu'est-ce qui peut être pire que mourir de froid?
Ces femmes prétendaient m'aimer, elles aussi. Viole-t-on le secret de qui l'on aime? Et même quand on n'aime pas, le droit au secret est imprescriptible.
Que de grands mots dans la bouche d'un assassin.
Assassin, au départ je ne l'étais pas. J'étais seulement un homme qui tenait à son secret.
Assassin, vous l'étiez déjà. Vous aviez tué vos parents.
Tuer mon père et ma mère, c'eût été une erreur esthétique. J'ai failli jouir. Qu'allez-vous faire?
Rien. Je ne vous dénoncerai pas, parce que je ne suis pas de cette espèce. Et je ne partirai pas. Aussi longtemps que je vivrai ici, aucune femme ne risquera d'être votre victime.
Je n'aimerai plus jamais après vous.
Vous m'écœurez. J'espère qu'en demeurant dans cette maison, je vous pourrirai l'existence.
Ce n'est pas en surgissant dans ma chambre, au milieu de la nuit et en me menaçant d'une arme blanche, que vous me gâcherez la vie. Je suis navré de vous l'avouer.
Exaspérée, Saturnine s'en alla, rangea le couteau dans la cuisine et se servit un verre de lait qu'elle but d'une traite, au dernier degré de l'irritation.
Dîner avec un homme à qui on a pointé un couteau sur la gorge la nuit même ne manque pas d'attrait.
Songea Saturnine le lendemain soir en s'asseyant à la table de la cuisine.
Alors?
Alors?
Il y a un réconfort que seul le grand champagne procure.
Vous avez besoin de réconfort, ma pauvre enfant. J'ai préparé le plat le plus réconfortant de l'univers, des œufs brouillés.
Encore des œufs?
À 20 ans, j'ai tenté l'expérience de consommer des œufs ad libitum pendant 15 jours.
Pourquoi ne faites-vous rien normalement?
Comment cela?
À 20 ans. Au lieu de vous intéresser aux filles, vous vous gavez d'eux. Adultes, vous congelez des femmes pour les photographier.
Vous simplifiez à outrance. Cela dit, vous avez raison. J'aurais été bien inspiré de m'intéresser aux filles plus tôt. J'ai perdu ma virginité à 26 ans, par la grâce de la colocation.
Emeline, si je me souviens bien.
Oui, Emeline.
À l'époque, vous n'aviez encore pris aucune photo. La chambre noire ne recelait donc aucun secret. Pourquoi avoir tué Emeline?
Quand Emeline s'est installée ici, je suis tombé fou amoureux d'elle. Je ne connaissais pas cet état dont la violence m'agitait de spasmes. J'ai eu besoin de trouver une retraite. Il y avait cette pièce vide, dont j'ai peint à l'intérieur et la porte en noir. Je m'y isolais, laissant une ampoule allumée. J'avais créé le néant, le non-être. J'ai su aussitôt qu'il fallait garder pour moi cette découverte. Et j'ai installé un mécanisme de fermeture cryogénique, persuadé qu'il ne servirait pas. Erreur douloureuse. À peine avais-je averti Emeline du secret. Qu'elle l'enfreignait.
Racontez-moi.
C'était un dimanche matin. Je revenais de la messe, l'âme élevée. Je voulais, comme chaque dimanche, réveiller Emeline de mes baisers. Le lit était vide. Je l'ai appelée, pas de réponse. J'ai pensé alors qu'elle était sortie. Je me suis installé au lit avec l'ars magna de Lulle. Cela m'a englouti pendant 5 heures.
Si je comprends bien, vous auriez pu sauver Emeline. Si au lieu de lire Lulle, vous étiez parti à sa recherche, vous auriez pu la libérer. alors qu'après 5 heures de lecture, Emmeline était morte.
J'ai fouillé toute la pièce de cette demeure avant de songer à la chambre noire. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu son cadavre sur le sol. J'ai hurlé d'horreur et de désespoir. Je l'ai porté dans mes bras jusqu'au lit. À cause de sa raideur, j'ai eu du mal à enfiler la robe couleur de jour que je lui avais confectionnée. Ensuite, je suis allé chercher le Hasselblad et je pris la première photo de ma vie. Force est d'admettre qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre. La beauté d'Emmeline sur ce portrait dépasse tout ce que l'on peut imaginer. J'ai punaisé cette image au mur de la chambre noire, qui n'a plus jamais été le lieu de mon néant secret, mais dans laquelle j'ai continué à m'isoler régulièrement pour aimer Emmeline.
Jusqu'ici, à l'extrême rigueur, on peut considérer cette mort comme un accident.
Je ne la considère pas comme telle, pas plus que les morts qui ont suivi.
Racontez-moi.
Un an et demi après le décès d'Emmeline, j'ai senti à nouveau le besoin d'une femme. J'ai passé une annonce de colocation, et parmi celles qui se sont présentées, il y avait Proserpine. Le mystère s'en est mêlé, je suis tombé amoureux d'elle, et elle aussi.
Vous n'aviez pas démonté le dispositif cryogénique de la chambre noire ?
Non.
Pourtant, vous saviez désormais qu'il y avait un risque réel ?
Je suis d'un naturel généreux. L'erreur d'une femme ne me pousse pas à croire que toutes les femmes sont fautives.
En 18 années, 8 femmes.
9, et à vous, provisoirement vivante.
Si vous le voulez bien, nous parlerons de moi plus tard. Qu'est-ce qui vous empêche de démonter le dispositif assassin ?
Le manque de conviction.
Et combien de femmes vous faudra-t-il massacrer pour atteindre cette conviction ?
Pas plus de 9.
Je ne vous crois pas. Je suis sûre qu'à chaque fois, vous avez pensé que c'était la dernière.
Non, je n'ai jamais eu cette certitude. Avec vous, je l'ai.
Vous croyez vraiment que vous n'aimerez plus après moi ?
Je ne le crois pas, je le sais. Je vous laisse y réfléchir.
Alors ?
Alors ?
Si je vous dis 7 plus 2 égale 9, est-ce que cela vous convainc ?
Oui.
7, c'est le spectre. Oui, mais vous avez tué 8 femmes, et peut-être bientôt 9 si l'on m'inclut. C'est oublier que dans notre réalité, aux deux extrémités du spectre, il y a le noir et le blanc. Absence, ou présence absolue de ce qui constitue votre souverain plaisir, les couleurs. Si j'avais mieux retenu votre exposé sur les vêtements que vous avez créés pour chacune de vos femmes, j'aurais pu, comme au Cluedo, attribuer une couleur à chaque prénom. Quoi qu'il en soit, le jaune, c'est moi.
Oui. Vous êtes le jaune, et ce n'est pas un hasard si vous arrivez à la fin. C'est la couleur métaphysique par excellence.
C'est aussi la couleur du spectre qui correspond à l'or.
Les alchimistes l'avaient compris.
C'est votre voie d'accès à la totalité. Si vous me tuez et me photographiez avec la jupe que vous m'avez offerte, votre chambre noire sera un nuancier complet. Vous serez alors un collectionneur comblé.
Passé le choc du deuil, la cohabitation avec une aimée morte ne manque pas de charme.
Les cadavres sont toujours ici ?
Non, rassurez-vous. Toutes sont enterrées auprès de mes parents au cimetière de Charonne. Mais je sens une exception à votre sujet. Peut-être parce que vous êtes le jaune, vous perdriez beaucoup à mourir.
Cela tombe bien.
J'ai eu raison de garder le dispositif meurtrier de cette chambre, puisqu'il existe une femme respectueuse des secrets d'autrui.
Bon, vous avez trouvé la perle rare. Vous pourriez peut-être le détruire, ce dispositif, à présent.
Je vous vois venir. Vous me considérez comme un fou qu'il faut mettre hors d'état de nuire.
Le penser d'un homme qui a tué 8 femmes pour des motifs chromatiques sera un jugement hâtif.
Je ne suis pas un fou, mais un homme épris d'absolu, confronté par 9 fois à une question terrible. Quelle est la juste frontière entre l'aimer et soi ?
Question à laquelle vous avez donné 8 réponses un peu trop définitives, à mon goût.
Mais la 9e réponse sera la bonne.
La connaissez-vous ?
Non. Vous allez me l'apporter.
Et si, pour la première fois de votre existence, vous photographiez une vivante ? Pendant que vous allez chercher votre Hasselblad, je cours enfiler la jupe.
J'ai peur de ne pas en être capable.
La peur fait partie du plaisir.
Très bien. Nous ferons cela dans le boudoir. Thank you. Mettez-vous sur le sofa. Voilà.
Vous plaisantez? Nous n'allons pas nous contenter d'une seule photo.
C'est ainsi que je procède.
Avec les mortes, avec une vivante, il faut essayer toutes les positions.
L'expérience les sidéra. Plus il la photographiait, plus Saturnine sentait monter à la surface de sa peau une énergie qui jaillissait par salve. Comme il travaillait à l'argentique, la séance ne fut pas gâchée par l'immédiateté du résultat. L'œuvre a besoin du mystère de l'attente. Il est bon quand on crée de ne pas nier le temps. Le lendemain, la jeune femme trouva étalées sur son lit les photos de la veille. Il y en avait une cinquantaine, plus stupéfiantes les unes que les autres. On eût cru que 50 modèles différents avaient posé.
Un cru Claude Duménil, 1843.
Merci pour les photos.
Ah, c'est moi qui vous remercie. Je n'ai jamais rien vécu de pareil. Laquelle des photos allons-nous choisir pour la chambre noire?
Faut-il vraiment mettre l'une de ces photos dans cette pièce?
Bien sûr, sinon il manquera une couleur.
Peut-être faut-il qu'elle manque.
Vous déraisonnez, ce serait une erreur esthétique.
Je n'en suis pas sûre.
Venez voir.
Don Elemirio emmena Saturnine devant la porte noire. Elle s'assura qu'il avait bloqué le dispositif cryogénique avant de le suivre à l'intérieur.
Une vivante parmi les photos de mortes, vous n'y pensez pas?
Il me faut ma femme jaune. Savez-vous quel est le nom de couleur qui apparaît le plus dans la Bible?
Je l'ignore.
C'est l'or. C'est vous, ma bien-aimée.
Je ne veux pas que vous mettiez ma photo ici.
Je me passerai de votre permission. Un nuancier doit être complet.
Vous arrive-t-il de tenir compte du désir de l'autre?
Je me permets de vous rappeler que chacune de ces femmes a enfreint mon désir.
Et moi? Moi, j'ai respecté votre désir. J'ai attendu que vous m'invitiez dans la chambre noire. N'ai-je pas été parfaite?
Vous n'êtes pas l'or pour rien.
Mon désir ne mérite-t-il donc pas votre considération?
Je ne comprends pas. Vous aimez les photos que j'ai prises de vous?
Je les aime trop pour qu'elles soient exposées dans ce lieu sinistre.
Sinistre? Ce sanctuaire de l'amour.
On dirait le frigo d'un boucher.
Saturnine.
Je suis là.
Il n'y a pas moyen d'ouvrir de l'intérieur.
Je m'en doute. Sinon, vos 8 femmes ne seraient pas mortes.
Pourriez-vous me libérer, s'il vous plaît?
À une seule condition. Que vous prêtiez serment de laisser vide l'emplacement de la couleur jaune.
Je suis incapable de mentir. Je ne peux pas prêter ce serment.
Donc, vous choisissez de mourir.
Mais c'est comme si vous imposiez à Dieu de renoncer au jaune lors de la création de l'arc-en-ciel.
Tant pis pour vous. Vous saurez ce que c'est que de périr par le froid.
Pourriez-vous rester là le temps que je trépasse, afin de me tenir compagnie?
Il n'en est pas question. Le cru de Claude du Ménil 1843 va s'éventer. Je me ferai un plaisir de boire sans vous.
Saturnine. Saturnine. Vous n'imaginez pas la jouissance que j'ai éprouvée pendant cette dizaine de jours à contempler vos yeux couleur de jaune.
Je reste dehors la nuit entière. Sinon, je ne pourrais pas m'empêcher d'aller libérer l'Espagnol. Allô? Corinne?
Oui?
Une nuit dehors avec moi et un très grand champagne, ça te dit?
J'arrive.
Près de la station de métro, elle avisa un banc public et s'y assit pour l'attendre. À l'instant précis où Don et les Myrios mourut, Saturnine se changea en or.
Thank you.
Barbe bleue, d'Amélie Nothomb. Roman adapté par Julie Guichard et publié aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Avec Marion Malenfant, Saturnine, Corrado Invernizzi, Donnelly Mirio, Laure Killing, la narratrice, Émilie Tracente, la femme, Camille Clarisse, Corinne. Composition et interprétation musicale, Manuel Peskin. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, Bernard Laniel, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier.
Vous écoutez France Culture, c'était Samedi Noir en direct de la Maison de la Radio, une émission à réécouter, podcastée sur franceculture.fr. La semaine prochaine, n'oubliez pas la seconde émission du cycle consacré au conte d'Amélie Nothomb. Ce sera Riquet à la houppe et dans quelques instants, Mauvais Genre, présenté par François Angelier.